La Grenouille se fait l'écho du Festival des cinémas d'Afrique en Pays d'Apt du 6 au 11 novembre 2009. Une jeune Togolaise, dont le pseudonyme est Akos Legba, témoigne de l'esclavage moderne dont elle a été victime dans un luxueux appartement parisien. Elle raconte son arrivée en France, la confiscation de ses papiers, son enfermement, son asservissement. C'est à travers sa voix qui résonne dans les pièces vides de cet appartement que se construit sa mémoire.
Et son mari, quand je l'ai vu la première fois, il parle pas, hein. Il est comme ça, mais son caractère, c'est, tu peux pas supporter. Avec sa famille, tout va bien. Il rigole. Dès que moi je rentre au salon, il change de caractère. Il veut pas que j'existe, quoi. Je connais personne pour pouvoir parler un peu. Et je suis enfermée, je ne sors pas. J'ai peur de tout. Donc j'accepte tout. Pour que les choses aillent bien. Et une fois, sa femme, elle m'a amené au marché. Elle est devant, t'es derrière. Si tu te mets à côté d'elle, elle va te regarder comme ça. Et tout de suite, tu sais qu'elle ne veut pas que tu sois à côté d'elle. Je ne suis pas présentable pour être à côté d'elle.
L'esclavage moderne, en fait, c'est une forme de solitude qui est imposée. C'est-à-dire que la solitude, c'est un sentiment qu'on peut... Moi, j'aime bien être seul. Je suis souvent solitaire et... Voilà, j'aime bien être des fois un peu en recul par rapport au monde. L'esclavage moderne, c'est quelque chose qui est imposé, forcé, qui n'est pas forcément une volonté personnelle. Et c'est à partir de là, en fait, où la solitude peut devenir un cauchemar à partir du moment où elle n'est pas du tout choisie. Et voilà, c'est à contre-temps de ce qu'on souhaiterait. On vous impose de venir là, de repartir... Là, dans le cas du film, en tout cas, de repartir dans sa chambre, de revenir dans le salon, d'aller chercher les enfants, voilà. La solitude peut rimer avec liberté, mais voilà, elle peut aussi devenir une prison dans ce cas de figure-là, quoi.
Brahim Frita, réalisateur franco-marocain, a présenté son court-métrage intitulé « Une femme seule » à des collégiens et lycéens lors du 7e Festival des cinémas d'Afrique en Pays d'Apt.
Elle a fait les papiers à France. Ils ont diminué mon âge. Et elle a dit que je suis sa fille. Elle m'a donné 16 ans. Quand je suis arrivée, la première chose qu'ils ont fait, je prends le passeport et tous les papiers.
En fait, au Togo, elle vient d'une classe sociale très, très pauvre, en fait, très défavorisée. Et donc déjà, au Togo, elle travaillait au service d'employés plus aisés, pas forcément des gens riches, mais qui avaient de l'argent assez, en tout cas, pour l'employer. Voilà, elle était bonne au sein d'une famille. Et un jour, les cousins d'une des familles pour lesquelles elle travaillait, qui vivaient en France, eux, donc avec un niveau social plus élevé, avaient besoin de quelqu'un pour garder leur enfant et un nouveau-né qui allait arriver, quoi. Donc la famille au Togo qui employait Akos Legba lui en a parlé en disant « ça va être super, tu vas aller chez ma cousine en France, elle est très sympa, elle est très bien, tu vas gagner de l'argent ». Donc Akos, en fait, elle était partante. Sauf qu'en fait, très vite, elle s'est rendue compte qu'il fallait faire des faux papiers. Donc déjà, ça l'inquiétait un petit peu, mais elle a accepté de le faire. en se disant que ça irait mieux une fois là-bas et que c'était quand même la France. Et qu'elle, elle venait vraiment de nulle part, donc c'était un moyen, voyant tous les gens autour qui essaient de quitter le pays, parce que vu les difficultés économiques qu'il y a encore au Togo, beaucoup de gens souhaitent partir, même si c'est au Ghana à côté, qui est un pays plus riche. Voilà, aller en France, là, c'est carrément Byzance. Donc elle a accepté avec des faux papiers, et elle s'est retrouvée, en fait, une fois arrivée à l'aéroport, comme elle le dit dans le film, passeport confisqué. Et à partir de là, enfermée dans cet appartement dont elle avait les clés, quand même. C'est ça que je voulais comprendre en faisant ce film, c'est-à-dire qu'elle pouvait sortir, puisqu'elle devait chercher les enfants à l'école et les ramener à la maison, donc elle avait cette possibilité. Mais en fait, ce dont on se rend compte avec le film, c'est que la notion de liberté dans un pays qu'on ne connaît pas, où on vous dit que les flics vont vous arrêter à chaque fois, quand vous ne parlez pas bien la langue et que vous êtes étrangère... Donc noir de surcroît, donc ça se voit, il y a une peur complète de l'autre, d'un pays a priori hostile, avec une famille qui en rajoute aussi sur cette hostilité, et le fait qu'il n'y avait pas de papier aussi, il y avait une peur à tous les niveaux. Donc en fait, elle faisait les trajets, elle sortait, mais elle revenait aussitôt dans l'appartement en espérant à chaque fois que ça irait mieux. Mais la famille, plus ça allait, plus la mère, le père en profitaient pour... asseoir leur domination sur elle, quoi.
Elle les appelait ses protecteurs, pourtant.
Donc voilà, c'est des protecteurs où... affectueusement, en tout cas, les appelait tonton ou mon oncle. Parce qu'en fait, c'est aussi le lien qui est instauré par les parents, en fait, qui veulent un lien un peu paternaliste. Et en fait, c'est ce schéma de père protecteur ou mère protectrice qui domine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve. Ce film, en fait, pour moi, il va beaucoup plus loin qu'un simple cas d'esclavage moderne. C'est pas juste une illustration de ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que n'importe qui pourrait se retrouver dans cette situation. Et que ça peut être aussi bien un Français, une Française qui se retrouve en Chine, dans une famille aisée ou je ne sais où. Et qui, voilà, à partir du moment où on ne maîtrise pas les codes, où on essaye d'aller au mieux, il y a un phénomène d'emprisonnement mental qui peut se mettre en place, quoi. Après, c'est le cas pour les situations de femmes battues, où apparemment la femme peut partir à tout moment. Dans un couple, il n'y a pas de... elle a les clés de la maison. En tout cas, en France, il y a une certaine, a priori, liberté de la femme, mais on se rend compte que l'emprisonnement, il est ailleurs, il est dans la tête, quoi.
Et le tourbillon de ce tambour qu'on voit de manière récurrente, c'est l'asservissement.
Déjà, de façon très primaire, c'est vraiment l'idée d'une tâche quotidienne qui tourne, qui continue sans s'arrêter, quoi. Comme le mythe de Sisyphe, quelque chose qui est à peine terminé, recommence, à peine terminé. Donc le tambour, la machine à laver qui tourne, c'était un peu cette idée-là. Le fait d'un cercle, cet appartement dans lequel elle tourne en rond, même dans son esprit, les idées qu'elle ressasse, qu'elle retourne sans arrêt, il y avait ce rapport-là, en fait, que je trouvais approprié. Et après, par rapport au film, il y a un truc de cercle, de circuit qui semble interminable, mais à la fin, on a quand même une sortie, une respiration. Donc, c'est pas... même si c'est, a priori, un rythme... Il y a quelque chose de très dur aussi dans la machine à laver, le tambour quand il tourne. Même l'idée de tambour, le nom de tambour, je trouve que ça... il y a quelque chose qui fait que, comme un tambour, on tape dedans, ça résonne, ça... Donc voilà, c'est toutes ces choses qui font que la machine à laver, quand on l'a filmée, alors l'équipe était étonnée au moment du tournage, parce que filmer une machine à laver comme ça, c'est assez étonnant, on va dire, pour l'équipe des gens qui me suivaient à la caméra et au son. Au final, ou très vite pendant le tournage, on a bien compris l'idée de rapport entre les objets et son asservissement, quoi.
Avec l'absence de figuration dans votre court-métrage, vous laissez un espace imaginaire qui rend envisageable la révolte, en fait.
Est-ce qu'on parle de révolte? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une réaction. C'est plus une idée de réaction. Parce qu'une révolte, ça serait trop intellectualité, trop fort, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est plus fort, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, à un moment donné, en fait, on l'a tellement poussé à bout qu'il y a une réaction qui se met en place. Et après, il y a l'aide de gens autour qui réagissent aussi. Donc, contrairement à la révolution, on a quelque chose de planifié, de voulu, de pensé. Là, en fait, on est dans une réaction qui est de l'ordre de l'intuitif et de la survie. Elle y a réchappé. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on découvre quand on va dans son passé, c'est qu'il y a quand même les germes elle a un caractère qui est quand même très fort. Avec à côté, elle a accepté des choses qu'on pourrait considérer comme faibles, une certaine faiblesse. Mais de l'autre côté, en fait, il y a une force de caractère, quelque chose qui fait qu'elle est en France. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont accepté les conditions de sa venue en France au service de quelqu'un pour faire le ménage. Voilà, parce qu'en général, la plupart des gens qui essayent de quitter leur pays pour l'Europe ou un pays plus riche cherchent. Il y a une idée de liberté, de trouver mieux. Et je pense que la plupart des gens, si on leur propose juste de faire des ménages chez quelqu'un 24 heures sur 24, mais en France, il y en a beaucoup qui refuseraient cette situation, même s'ils sont dans une situation critique. Après, c'est des histoires d'ego. Et elle, en fait, comme elle l'avait déjà fait auparavant et que ça ne la gênait pas, elle avait une certaine habitude de ça, de prendre sur elle. Elle s'est dit que ça soit ici ou en France. Ça peut être que mieux en France, sauf qu'à la fin, elle regrette vraiment d'avoir accepté, quoi. Même si au final, elle habite en France, qu'elle y vit maintenant, mais voilà, il y a quand même, c'est au prix quand même d'un traumatisme. Elle va vivre avec ça toute sa vie. Moi, j'ai fait un film, le film existe et tout ça, mais il y a d'autres choses qu'elle m'a pas racontées, ou des choses qui peuvent ressurgir comme ça, des blocages.
J'habite dans un village du Togo avec ma grand-mère. Chaque week-end, je rentre dans les bois pour chercher des morceaux de bois pour aller vendre ça au marché. J'ai commencé, c'est moi-même qui ai acheté des ardoises et tout ça, créé tout. Moi aussi, je vais à l'école. J'ai commencé comme ça. Notre père, il est tombé sur une autre femme et il a laissé tomber ma mère. Il s'occupe d'eux, mais pas nous. Il est toujours notre papa. Ça nous suffit. On sait qu'on a un père, ça nous suffit. Les gens ils se moquent de moi, que mes petits soeurs ils sont mariés, ils ont des enfants. Et moi, je suis toujours pour en servir aux gens pour l'éternité. Je dis, mais moi, je veux faire quelque chose pour sauver ma famille, quoi. Parce que tous mes frères, mes soeurs, ils sont au village. Eux aussi, ils sont comme nos parents. Rien ne bouge pas. Ils ont dit que le ménage comme ça, que c'est pas du travail. Moi, je veux faire ça. Je veux faire ça pour aider ma famille. Je veux pas que ma mère soit tout le temps triste. Arrivée à Lomé, j'ai trouvé du travail et j'ai continué, c'est du ménage. J'ai continué comme ça. Et chaque fin du mois, j'envoie l'argent à ma mère parce que on est une famille très, très, très pauvre.
Moi, en fait, quand j'étais petit, donc ça, c'est le sujet de mon long métrage que j'écris là, donc il va se passer en 1981. Et en fait, on habitait dans une société de pièces détachées de grues, de chantier. Donc, en fait, mon père était gardien de l'usine, donc tous les soirs, on fermait les portes. Moi, mon frère et ma sœur, en fait, on aidait ma mère à faire les ménages le soir. Donc, les lieux étaient vides et on était vraiment dans les locaux nous appartenaient, donc on faisait ce qu'on voulait. Donc l'idée de ménage et tout ça, là il y a quelque chose en fait moi qui où je vois très bien les choses qu'on peut raconter à travers ce métier, on va dire. l'idée de nettoyer, de transformer un lieu qui est dans lequel il y a eu du passage, de la vie, du désordre, qui lui raconte des choses en fait, des personnes qui y vivent, et que par des indices, des traces, on voit s'il y a un changement d'humeur. Voilà, par rapport à ce passé, à mon passé, voilà, c'est sûr qu'il y a une résonance sur les tâches répétitives, les lieux vides. Voilà, là, il y a des choses que j'ai retrouvées de ce passé-là. Et après, sur l'idée de, par rapport au Maroc et une condition sociale, il y a des choses qui me touchent dans son histoire et que je retrouve même dans ma famille en France, même si on n'a pas vécu cette situation, heureusement. Mais là, d'un point de vue plus global, d'un truc de classe sociale, voilà, qui fait qu'à un moment donné, ceux qui dominent, même s'ils ont, ils gagnent que 500 euros de plus par mois que vous, il peut y avoir des gens qui peuvent profiter ou vouloir profiter de cette situation pour imposer leur force, leur pouvoir ou leur domination. Donc le film, il raconte des choses de moi aussi. Et après, c'est plus ou moins... après, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, donc... Après, voilà, il y a peut-être des choses qui vont apparaître où je vais me dire, tiens, ok, ça signifie ça. C'est ça aussi le cinéma quand on se laisse, quand on essaie d'atteindre une expression artistique, de laisser un peu lâcher les choses, voilà. Et après, on laisse un peu les gens analyser. Mais je pense qu'à un moment donné, on a les réponses, si on les cherche, à des questions qu'on peut se poser. Voilà. Donc le film, il me ressemble complètement... à tous les niveaux, mais après, c'est peut-être pas dans l'histoire même, mais c'est dans des détails, dans des façons de voir les choses, et voilà. Et dans l'idée d'un, pas d'un optimisme, mais d'un truc de, voilà, il y a une petite étincelle qui subsiste, et à la fin, on arrive quand même à s'en sortir. Et le film était aussi de montrer, c'est ce qui me tenait vraiment à cœur, qu'une femme togolaise... sans papier, femme de ménage, victime d'esclavage moderne, bon, même si c'est le truc qui peut attirer plus de gens, mais je ne traite pas vraiment de ça, c'est un portrait d'elle en général, de son enfance à aujourd'hui. L'esclavage moderne, c'est un passage à un moment donné, mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas le cœur du film, en fait. C'est plus large. Dans son histoire, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'intéressait, c'était de raconter l'histoire de quelqu'un qui, sur lequel on n'a pas un coup de projecteur, mais de montrer que cette personne est... Parce qu'elle m'a intéressé, elle peut intéresser beaucoup de gens, quoi. Mais c'est pas... on l'entendra qu'une fois, mais voilà, c'est... Pour sortir un peu des trucs voilà, qu'on voit, tout ce qui est people, mais au-delà de ça, même tous ceux qui se considèrent plus intéressants, plus intellectuels, ayant vécu plus de choses que les autres, ayant plus souffert. Et je voulais montrer que, voilà, c'est, on s'en fout... C'est pas une comptabilité, la souffrance ou la joie, c'est, voilà, à un moment donné, si quelqu'un a quelque chose à dire de très fort, quelle que soit la personne, eh ben, ça lui révèle une part d'humanité, et à partir de là, elle peut même elle, se révéler ou se découvrir autre chose d'intéressant, quoi.
Je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans. Mon film préféré dans les 4 qui nous ont été diffusés est Une femme seule, car il m'a beaucoup touchée. Ce témoignage m'a montré que même malheureux, il ne faut jamais perdre espoir. Dans la vie, rien n'est jamais perdu. Enfin, bref, j'ai adoré.
Une femme seule a été présentée dans le cadre du Festival des cinémas d'Afrique du pays d'Apt, et c'était Brahim Frita, réalisateur franco-marocain, au micro de Capucine Caro. Yo kata me woku ama pondu ayena lo jalen bo jale bo ma pondu ayena lo